surprenant comme le départ d'Elisabeth May de la chefferie du Parti vert. Après 13 ans, hein? Éric Lantier est au bout du fil, notre chroniqueur politique, entre autres. On parle beaucoup d'éducation avec lui aujourd'hui en au menu. Mais on commence avec la politique fédérale, la campagne qui vient de se terminer. Salut Éric.
Allô, allô, allô.
Merci d'être avec nous autres. Tes commentaires sur le départ d'Elisabeth May, est-ce que elle avait tellement bien fait au débat, elle avait tellement bien fait dans cette campagne, ça en est très surprenant. Hey, 1 million de votes. Ah oui, il y en avait 970 000 la dernière fois. Et je pense qu'il avait déjà mieux fait auparavant. Moi, tu vois la chose?
Ben, moi, je pense que tanné de voir les politiciens chicaner, là, fait que...
ça doit être ça, hein?
Ouais, c'est ça.
Oh, damn!
Ouais, c'est ça, mais ben, je pense qu'elle a fait son temps, et puis c'est important que les Verts soient associés à un mouvement plus jeune. Elle incarne vraiment pas la jeunesse, et puis je pense que c'était le temps. C'est de bonne guerre, à part avec un peu plus de députés en chambre, et donc elle laisse quand même le terrain, un terrain qui est intéressant pour une relève, à part pas avec aucun député. Alors, quelqu'un qui veut se lancer en politique puis se pratiquer, je pense que c'est un bon terrain de jeu.
Le seul bon bout qu'elle avait eu, c'est quand elle s'était saoulée dans un dîner de la presse puis elle avait dit de la merde sur le cabinet, je pense, à l'époque, qui était composé de conservateurs. He's got whole, more class than a whole fucking cabinet. Un petit F-word qu'elle avait laissé échapper. C'est son meilleur moment politique. À mon avis, je suis quand même politologue. Puis je suis colon aussi, on s'entend. mais le débat, plus pogné, certainement pas à cause d'Elisabeth May, mais c'est quelque chose qui est intéressant à observer qu'en 2015, où les débats de la campagne qui vient de se terminer, Éric, tu voulais nous parler de ça?
Oui, je voulais te parler de ça parce que Marie Vastel a publié un papier là-dessus, puis elle démontre que les cotes d'écoute des débats, eh bien, ont fait un bond comparativement à 2015. Puis moi, je trouve ça intéressant parce que je suis toujours inquiet par le cynisme de la population et spécialement par les jeunes.
Et là, cette campagne-là a été qualifiée de plate, de redondante, de sans saveur. Dès le début, ça n'a pas été long, puis j'ai embarqué là-dedans, c'était vrai. Quand même, on a eu un bon à quel point dans les codes d'écoute?
Ben, c'est intéressant parce qu'on a été chercher 4,2 millions de Canadiens pour le débat francophone, 2,6 millions de Québécois. Et ça, c'est une augmentation assez intéressante parce que dans les années passées, on n'a pas réussi à atteindre ces chiffres-là. Puis moi, ce que je trouve le plus percutant, c'est que près de 73 000 auditeurs ont suivi le débat à la radio, 112 000 sur la plateforme web des médias partenaires. Donc, c'est pas énormément, mais on s'en va dans cette direction-là. Là. Tranquillement, on essaye ça. Maintenant, quand on a diffusé sur Facebook, ça a été vraiment un pétard mouillé parce qu'il y a presque eu personne. Les gens ont suivi sur Facebook un peu moins que 2 minutes.
Ben, c'est fait pour ça, des Facebook Live. Tu fais pas des... Ah, Frank de Rap Québec, tu fais pas des affaires de 55 minutes. C'est pour des petits clips. Puis je suis content de finalement d'entendre ça celle-là. Là, le reste aussi, ça augmente. Fait que, intéressant. Pas besoin de zigonner trop pour la prochaine élection pour être sur d'autres plateformes. La TV fait bien si on en fait la promotion de façon adéquate.
En 2015, il y avait 931 000 Québécois qui avaient syntonisé le débat des chefs. Puis quand on compare ça à 1,6 million, c'est quand même une belle augmentation. C'est significatif.
C'est à cause que les gens voulaient voir Elisabeth. Merci. Voilà pour le.
Vas-y. Parce que je pense que la campagne, justement, tu l'as touché le point, était tellement plate que les gens se sont dit peut-être qu'au débat, il va sortir quelque chose de bon.
Là pour le premier sujet, Éric. Une affaire de régler. On passe à l'éducation sexuelle. Toi, mon ancien directeur d'école, tu voulais parler d'exemption là-dedans. Est-ce que c'est possible? Mettons, t'es témoin de Jéhovah, puis tu veux que tes enfants entendent pas ces choses sales là que c'est que l'éducation sexuelle. T'as-tu droit?
Ben, tu as le droit si tu peux prouver que psychologiquement, ça peut nuire à ton enfant. Par exemple, s'il a déjà vécu des agressions sexuelles ou si il a vécu un traumatisme, okay, ou pour des raisons de conscience que ça peut vraiment mener à une tension ou des tensions dans la famille parce qu'il y a des valeurs que les parents veulent enseigner puis que le cours, eux autres, propage des valeurs différentes.
Ouais, maintenant, okay, ouais, ben là, six mois, là, ça ouvre large, là.
Ouais, ça rouvre large, mais à l'exception de l'Outaouais, on a géré ça très, très, très serré.
Okay.
Et ce qui est étonnant, c'est que dans la région de l'Outaouais, il y a eu environ 200 exemptions.
Et
ça représente 81% de tout l'ensemble des dérogations accordées au Québec.
Voyons, avez-vous une secte particulièrement active dans le bout, quoi?
Oui, il y a un groupe de musulmans qui se sont mobilisés pour informer les parents du contenu. Il y a différentes communautés chrétiennes qui ont fait la même chose, évidemment. Mais moi, je l'ai dit dès le début, j'ai une pensée plus révolutionnaire là-dessus.
Oui, donc.
Moi, j'aurais mis des ressources là disponibles en ligne pour équiper les parents, disant, on va avoir des rencontres en ligne, vous allez avoir des vidéos en ligne, vous allez avoir des ressources comme, tu sais, appel au sexe parent, c'est 1-800, ouais, appel au sexe.
On va vous expliquer ce que vos flots vont avoir comme programme là-dessus à l'école, comme il se devrait. Ça, c'est ça dont tu veux parler?
Je veux juste parler de ce que...
Pour les enfants.
On équipe les parents à mieux communiquer ces notions-là. Parce que le problème, souvent, la relation parent-enfant en matière de sexualité, il peut avoir des malaises, il peut avoir des inconforts. Puis pourquoi on mettrait pas les ressources pour que, justement, équiper les parents à faire face à ces inconforts-là,
les
détourner ou améliorer la relation, la communication, pour que, justement, nos psychologues, nos travailleurs sociaux puissent aider les parents à mieux communiquer ça. Puis que, parce que foncièrement, là, les statistiques puis les recherches démontrent que s'il y avait une bonne relation entre les parents puis les enfants seraient portés à aller vers les parents en matière de sexualité. Mais le problème, il est là. C'est qu'il y a un malaise. Mais pourquoi on ne deal pas avec ce malaise-là en tant que société? Et ça, j'aurais aimé ça qu'on aille là, mais... Je pense que c'est rêvé un peu trop fort.
Ça commence à quel âge? Tu sais, c'est bien, ça serait bien qu'on ait des outils pour les parents, mais il y en a qui, tu sais, témoin de Jova, il voudra rien savoir. Il va être trop squeezé de l'arrêt pour ça, il veut rien entendre. Est-ce qu'il y a moyen qu'on donne des outils en ligne pour les jeunes? Tu sais, trop jeune, là, c'est mieux qu'il y ait quelqu'un qui suit, mais à partir d'un certain âge, je sais pas, 12, 13 ans, ça peut être envisageable, ça, non?
Ben ça pourrait être une autre alternative, c'est d'avoir des ressources en ligne que les parents pourraient écouter avec les jeunes, puis après ça avoir des temps de discussion, par exemple. Puis c'est là que je dis, si admettons, là, moi je suis avec mon jeune, puis on en discute, puis je sens qu'il y a un malaise, le soir ou un peu plus tard, j'appelle à ce numéro-là, hey, écoute, ça a pas bien été avec mon fils, avec ma fille, qu'est-ce que j'aurais dû faire, tout ça. Moi, c'est là que j'aurais investi. Parce que là, tu équipes les parents à faire mieux leur job. Mais en ce moment, ceux qui s'inquiètent à ce que il va y avoir une tollée de contestation, ça n'arrivera pas. Parce que le gouvernement, dans la plupart des cas, vont gérer ça de manière serrée. Même le ministre de l'Éducation a lancé un mot d'ordre aux commissions scolaires. Il dit, là, vous allez fermer le robinet, là, les exemptions, il faut que ça soit au compte-gouttes.
Bon. Bonne nouvelle, ça!
Ben, c'est une bonne nouvelle. Dans ce sens, c'est une bonne nouvelle pour l'approche du gouvernement, mais pour les parents, c'est pas une avancée comme telle. Mais
ben, c'est ça. Ceux qui veulent pas avancer, ça prend des choses qui, sur le côté, vont pouvoir être directement puisées par les kids. Toujours dans le domaine de l'éducation, tu as un article, un billet de Richard Martineau à nous citer. Généralement, c'est pas une bonne nouvelle nécessairement, mais, non, mais là, on reste dans l'éducation, puis on parle de misandrie. Définition?
Ouais. La misandrie, c'est la haine des hommes. C'est parce que, ben, c'est sûr que Richard Martineau en a parlé à plusieurs reprises.
Ouais.
C'est parce qu'il y a une dame du nom d'Anne Emmanuelle Lejeune, qui est enseignante, qui est féministe, et qui, elle, nie que, à l'école, les garçons ont un problème. La réussite scolaire, au contraire, si on met trop d'accent pour améliorer la réussite scolaire des garçons, eh bien, ça va être une entrave et ça va amener un problème aux filles. Donc, le problème, c'est l'inégalité des sexes.
OK, c'est systémique. Tiens,
ouais.
Le grand mot. OK, ben, peut-être encore des réalités de même.
Ouais.
Des problèmes dans le marché du travail, mais à l'école... En fait, c'est clair que les filles réussissent plus que les gars, là. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Il n'y a pas de doute là-dessus. La recherche le démontre, les statistiques le démontrent, les résultats des examens du ministère au secondaire 5 le démontrent. Et moi, c'est pour ça que je crois qu'il doit y avoir des programmes spéciaux pour les garçons, des programmes qui vont créer une motivation qui va stimuler les jeunes à vouloir apprendre à découvrir. Puis c'est pas vrai que les garçons apprennent de la même façon que les filles. Moi, je sais, j'ai étudié en éducation.
Ouais.
C'est pas vrai. Puis il faut apprendre aussi que, oui, on croit à l'égalité des sexes, mais ça veut pas dire que ça marche de la même manière des deux bords.
C'est l'équité qu'on vise, pas tout le monde est pareil. Mais ça, ouais, le mainstream, le narratif actuel, on aime ça, tout égal, tout pareil, puis des différences donc doivent être remis dans ce bassin-là de normalité. Ouais. Ça m'aide tout le monde s'il y a quelque chose qui dépasse, puis qu'on le constate. Pourtant, c'est assez facile à faire. Ben oui, physionomiquement, c'est très différent, puis ça a ça se répercute sur l'apprentissage, aucun doute là-dessus.
Il y a un autre élément que M. Martineau soulève. Il va citer Hugo Latulippe, qui lui a été un candidat pour le NPD dans Montmagny-Lillet, Rivière-du-Loup.
Pas loin d'ici, OK?
Ouais, check bien ce qu'il dit. J'ai l'impression que la transition écologique de notre économie sera opéré par des femmes. Je pense que les hommes sont trop ontologiquement liés au système qui nous dévore.
Ontologiquement, il y a besoin d'un grand terme pour justifier ces arguments faibles. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, ça veut dire que les hommes prennent trop de place, puis sont trop liés au système qui nous dévore parce que c'est un système qui est mené par les hommes, c'est un système qui est conçu pour les hommes. Puis la révolution, puis la transition écologique, là, si elle était opérée par des femmes, selon lui, là, ce serait la révolution, puis le bien-être et le mieux-être partout.
Total, oui, c'est ça. Il n'y a pas de femmes qui ont des mauvaises pensées, puis c'est de la pureté, puis etc. Ça fait dur un peu à lire. Candidat du NPD, c'est peut-être moins surprenant. Et bravo à Richard Martineau de rapporter ça. Je déconne, je haïs pas. Richard Martineau, c'est juste que il est tellement cité partout que à l'alternative radio des fous, ça me gêne un petit peu, mais ça reste qu'il il l'a sur pas mal de cas. Puis au nombre qu'il traite, là, il fournit pareil. Hein? Je sais pas comment il fait des fois. Il est actif, mettons.
Ouais, c'est ça. Ouais, il doit avoir une équipe avec lui qui l'aide un peu dans la recherche. Là.
Un ghostwriter, peut-être. Peut-être. Je sais pas.
On sait pas. Mais ce qui arrive, là, toute la question du féminisme, le féminisme, ça a sa place parce que pour moi, c'est clair, une femme qui fait le même travail qu'un homme doit être payée de la même façon. Mais on ne peut pas traiter les hommes et les femmes de la même façon dans tous les aspects. Je veux dire...
Mais c'est un extrême, le féminisme, tu sais, de bien considéré, de prof d'université. Là. Mettons, on va dire le féminisme d'université. C'est un extrême. Puis l'avancement se fait par balancier. Il y a l'autre extrême, il y a des masculinistes redneck qui voudraient revenir aux années 40 où la femme était totalement dépendante de son mari. Ces extrêmes-là, même le redneck, ça a une certaine utilité en ce sens qu'on a des repères où ne pas aller des deux côtés, puis le balancier fait son effet, au bout de la ligne, on trouve le centre. Là. Mais puis je pense que, en fait, je veux pas mettre nécessairement sur un pied d'égalité, je pense que les féministes ont un peu plus de mérite que cette gang-là de rétrogrades de l'autre côté à droite, mais il y a des dérives régulièrement. Sont peut-être plus actifs là, côté féministe qu'ailleurs. D'ailleurs, il y a beaucoup de subventions pour ça. Tu essaieras d'avoir la moindre affaire qui va dénigrer ou aller à la contresens de ce que les recherches féministes, en guillemets, peuvent amener. Ça risque d'être tough sur un moyen temps.
Ça, c'est sûr. Mais imagine si, justement, des groupes féministes arrivaient un jour, faisaient une conférence de presse puis disaient, nous, là, on est préoccupés, justement, par la réussite des garçons en milieu scolaire. Et là, je te dis, leur mouvement, là, prendrait de la crédibilité.
Ben, c'est clair. C'est ça que j'ai jamais compris. Voilà. Et, tu sais... Tu peux pas éliminer les hommes. Tu veux pas éliminer les hommes, tu sais. Voyons. Ben, accepte-les, puis va en ce sens-là, ça va effectivement te donner bien de la crédibilité. Des fois, c'est à se demander s'ils en veulent.
Ben oui, parce que, écoute, tu peux pas faire une fille sans un homme. Même si tu veux que la Terre soit peuplée de filles, il faut que tu aies des hommes pour les concevoir. Fait que t'as pas le choix de vivre avec, là.
Je peux pas croire qu'il y en a vraiment qui voudraient ça dans des positions intéressantes là, dans notre société. Mais on a vu d'autres. Des fois, on peut être surpris. Éric, c'est toujours un bonheur de jaser. Merci. Et on peut poursuivre la discussion avec toi sur ericlantier.net, ton site ainsi que tes réseaux sociaux.
Absolument, c'est toujours un plaisir de discuter, de débattre. Puis quand c'est fait dans le respect, ben c'est bien le fun.
On prend un break sur le respect. On est dans le respect quand t'es là. On te salue. Et à la prochaine. Merci.
Ça marche, salut.